L'amphi. L'amphi. L'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui permet à des porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire de trouver des financements. Ça s'appelle Place des Financeurs, c'est organisé par le CEAS, Centre d'études et d'action sociale de la Sarthe. Et c'est le 27 mars, et pour en parler, je suis avec Maël Cormier, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien et toi?
Ça va très bien, merci. Ah
bah super. Puis on parlera d'un spectacle qui sera donné à Ève, des femmes respectables, le 21 mars, avec son chorégraphe Alexandre Blondel. Enfin, on finira sur la chronique étudiante de Clémentine. C'est parti tout de suite pour notre premier invité du jour.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde.
Maël Cormier, tu es étudiant apprenti au CEAS 72. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce que c'est que le CEAS ?
Bien sûr, donc bonjour à tous. Le CEAS, donc le Centre d'études et d'action sociale, c'est une association agréée d'éducation populaire qui a été créée en 1937, donc ça date pas d'hier. Son objectif, c'est d'accompagner les initiatives et les envies d'agir et d'aider à comprendre les mutations sur le territoire et les problématiques sociales. Donc voilà, pour décrire rapidement ce que c'est, le CEAS, il a quatre fonctions. D'abord, c'est une boussole. Donc nous, notre but, c'est d'orienter nos bénéficiaires et d'aider à faire les premiers pas dans un projet. Ensuite, c'est un carrefour des mutations sociales. Donc notre ambition, c'est d'identifier les besoins sociaux et, troisième fonction, de mettre en relation, donc pour favoriser les coopérations et créer des synergies sur le territoire, créer de la valeur et répondre à ces mêmes besoins sociaux. Et dernière fonction, c'est l'accompagnement. Nous, on est là pour accompagner des projets à dimension sociale, environnementale et collective à toutes leurs étapes de l'idée, développement, consolidation, pérennisation.
Et concrètement, comment ça se passe en fait? Quelles sont les missions concrètes du CEAS?
Alors concrètement, on a plusieurs dispositifs qui s'articulent autour de toutes les étapes de la vie des projets, donc comme je disais. Et par exemple, pour en citer un seul, on a la pré-incubation, qui est en fait l'étude de l'opportunité du projet, où on va accompagner les porteurs de projets à identifier des besoins sur le territoire et à valider qu'il y ait vraiment un besoin social sur le territoire. Donc c'est vraiment la période de pré-incubation du projet.
Ok, d'accord. Alors il y a d'autres dispositifs du CEAS, la disposition locale d'accompagnement, l'innovation sociale club, qu'est-ce que c'est tout ça?
Alors oui, il y a aussi le dispositif local d'accompagnement. Moi, je suis pas là-dessus, donc moi, je suis alternant au CEAS, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc le DLA, on l'appelle, c'est l'État qui a instauré ça, c'est pour aider les associations employeuses. Si jamais elles ont un besoin, en fait, une problématique, bah, nous, on va les aider. On va les aider à la résoudre, que ce soit pour la gouvernance, que ce soit financier, ça peut être plein de choses en fait.
Okay.
Voilà, c'est financé par l'État.
Alors la formule phare du CEAS, c'est promouvoir la participation de tous les acteurs à la construction de leur territoire. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors ça veut dire que nous, on est là pour les citoyens. Comme je disais, on est agréé d'éducation populaire et une de nos principales fonctions, c'est l'accompagnement. Donc promouvoir la participation de tous à la construction de leur territoire, c'est aussi dire qu'on s'adresse aux porteurs de projets, aux citoyens, aux structures de l'économie sociale et solidaire, aux entreprises, aux élus, aux collectivités, aux institutions. On a vraiment cette large dimension et on s'adresse à beaucoup de personnes pour les accompagner à développer leur territoire. Voilà, c'est...
Alors il y a plusieurs notions qui ont été mises en avant. Là, tu as d'abord parlé d'éducation populaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Alors l'éducation populaire, il me semble, je suis alternant, un humble alternant. Il me semble que c'est fournir les compétences, les connaissances et les savoir-être aux citoyens pour qu'ils puissent développer leur esprit critique. Voilà.
D'accord. Bon, c'est un bon projet en tout cas.
Ouais, écoute, oui, c'est sympa.
Alors, l'action du CEAS passe aussi par la mise en avant, comme tu l'as dit, de l'économie sociale et solidaire. Pareil, une notion importante sur laquelle il faut revenir peut-être. Qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire?
Alors, notion très large, économie sociale et solidaire, on va le diminuer, on va dire que c'est l'ESS. L'ESS, ça a été introduit par une loi de juillet 2014, 31 juillet 2014. Et pour faire très rapide, ça remet l'homme au centre des organisations plutôt que le profit. Donc il y a d'autres modèles d'économie, hein, économie circulaire, économie de la fonctionnalité, capitalisme, etc. Donc ça remet l'homme au centre des organisations, et il y a quatre grands principes à l'ESS. Un, c'est la mixité des ressources, donc les ressources financières sont publiques et privées. Deux, c'est la non-lucrativité individuelle, tout l'argent ne va pas à une seule personne. Trois, c'est la gestion démocratique. Et quatre, c'est l'utilité sociale. Donc les projets doivent cumuler en fait ces quatre principes. Et pour donner un exemple, parce que c'est pour donner vraiment du concret, il y a quatre structures qui par défaut sont de l'économie sociale et solidaire. C'est les associations, les fondations, les mutuelles et les coopératives. Par défaut, la structure juridique veut qu'elle soit de l'ESS.
Ok. Voilà. Et alors de qui est composée cette association en fait ?
Alors le CEAS est composé, donc c'est une association, donc il y a une assemblée générale, il y a un bureau avec secrétaire, trésorier, présidente, nous il y a deux coprésidentes, et il y a aussi un directeur, puis des salariés qui font fonctionner tous les jours l'association.
D'accord.
Donc en tout on est sept salariés, et après c'est une assemblée générale.
Il y a des bénévoles aussi ou pas ?
Oui, il y a des administrateurs. D'accord. Qui parfois sont bénévoles, et voilà.
Et alors, est-ce que le CEAS 72 travaille en partenariat avec d'autres associations ?
Parfois, il se peut que ça arrive. En fait, ça dépend des besoins. Mais si on a l'opportunité, oui, pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Après, moi, ça fait pas longtemps que je suis au CEAS, donc voilà.
Ok. Et alors, parmi les thématiques abordées par le CEAS, hein, qu'on peut trouver sur leur site, il y a innovation sociale, utilité sociale, alors économie sociale et solidaire, on en a parlé, mais il y a aussi économie circulaire, coopération économique. À quoi ça renvoie tout ça ? Est-ce qu'il y a un modèle de société derrière ?
Alors oui, l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment remettre l'homme au centre des organisations plutôt que le profit. C'est un idéal, une ambition d'avoir un autre style de vie finalement. Et nous, ouais, on s'adresse vraiment à des projets qui sont d'ambition sociale, à dimension collective ou environnementale. Et tu peux me répéter ta question, s'il te plaît ?
Non, mais tu répondais bien.
C'est
mais,
bon
ouais, okay. Mais dimension sociale, mais qui fait participer les gens, du coup, en fait.
C'est ça, il y a cette dimension de coopération. C'est d'ailleurs l'innovation sociale. En fait, on dit qu'un projet est d'innovation sociale s'il répond à quatre conditions cumulatives. D'abord, il répond à un besoin social qu'il y a sur le territoire. Mmh. Ensuite, il a une logique participative. Il intègre les personnes sont des parties prenantes à ce projet. Ensuite, il est ancré sur le territoire et il est innovant. Ça n'existe pas encore.
Alors, en parlant d'innovant, on va aborder maintenant le sujet pour lequel tu es venu nous parler aujourd'hui. Alors, le CEAS 72, c'est aussi des temps forts, des animations organisées tout au long de l'année. Est-ce que d'abord, tu peux nous en dire un peu plus, notamment sur celle du 15 mars, du 21 mars et du 25 mars qui arrivent prochainement ?
Alors oui, nous on fait plusieurs animations dans le cadre de nos dispositifs. Donc par exemple prochainement le 15, c'est sur
c'est l'atelier communication.
Exactement,
numérique.
Communication numérique. En fait, c'est des ateliers boussole qui vont servir. Donc c'est dans le cadre de l'orientation des personnes. On va chercher à sensibiliser sur des sujets. Donc il y a plein de sujets. Là, c'est sur la communication numérique, mais il y aura aussi sur l'innovation sociale le 2 avril, le 4 avril sur des conseils en évolution professionnelle. Le but, c'est vraiment d'apporter des ressources aux personnes, c'est des ateliers dits boussole. Ensuite, tu m'as parlé de quoi d'autre ?
Après, il y a le tremplin des initiatives pré-incubes le 21 mars et le lancement appel à candidature de pré-incubes le 25 mars.
Alors oui, donc la pré-incube, c'est notre dispositif d'accompagnement des porteurs de projets. Donc là, pareil, il y a l'appel à candidature qui passera le 25. Et en fait, c'est des promotions de personnes qui viennent, qui ont des projets, qui viennent développer leurs projets avec nous. Et on les accompagne comme ça. Et à la fin de chaque promo, donc il y a l'appel à candidature là, mais il y en a une autre avant. À la fin de la promo, on va dire que l'accompagnement est terminé. On fait ce qu'on appelle un tremplin des initiatives.
D'accord.
Où là, on les réunit, on invite des personnes et on confronte leurs projets à la vue d'autres personnes.
Ok, ça marche. Et ben, on va maintenant s'intéresser de plus près à l'événement pour lequel tu es venu dans l'amphi ce soir. La place des financeurs, le 27 mars. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la place des financeurs ?
Bien sûr. Alors en fait, la place des financeurs, déjà, c'est organisé par l'ECAS en coopération avec le club de l'ESS, qui est un club d'entreprise de l'ESS. Nous, on a constaté qu'il y avait que l'accès au financement, en fait, c'était un enjeu à toutes les étapes des projets. Donc voilà. Et qu'à cet enjeu, il existait plusieurs solutions, mais parfois mal identifiées ou difficilement mobilisables par les acteurs. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas créer un événement, un espace de rencontre où les financeurs et les porteurs de projets et structures de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale vont pouvoir se rencontrer.
D'accord.
C'est de là que c'est venu. Voilà. Donc, nous, est-ce que tu as des questions plus précises ou tu veux que
développes? Du coup, je me demande, il se passe quoi en fait concrètement dans l'événement, quoi?
Alors concrètement, le but c'était donc de faire un espace de rencontre, mais pas seulement. On a aussi à cœur de fournir des ressources et d'outiller les personnes. Et donc, on a aussi fait pensé à des conférences et des ateliers pendant cet événement. Donc, je peux faire la programmation. Ça commence.
Bah oui, pourquoi pas, vas-y.
Pas de souci. Ouais. Donc, ça commence avec une conférence ouverte sur le B.A.B.A. des financements pendant une heure. Ensuite, il y a 2 heures de battement où les personnes vont pouvoir échanger avec des financeurs, etc. Okay. Et à la fin, il y a une conférence de fermeture sur le mécénat. Et entre deux, en parallèle de ce temps de forum, va y avoir des ateliers. Donc, 2 sessions d'ateliers.
Comment consistent les ateliers?
Alors, la première session, donc il y a 2 ateliers, c'est savoir trouver et se repérer dans les financements.
D'accord.
Parce que parfois, il y a des appels à projets pour financer des projets. Ensuite, savoir s'entourer en cas de difficulté.
D'accord.
La 2e session, c'est savoir parler à son banquier et savoir parler à une collectivité. Et nous, on n'est pas des professionnels. Au CEAS, on est comme un médecin généraliste. Et donc, on s'est dit, on a créé un réseau depuis plus de 80 ans sur le territoire. Donc, on va demander à des professionnels de venir animer en fait ces temps. Et donc, par exemple, pour le BABA des financements, c'est France Active qui vient l'animer.
D'accord.
Pour chaque atelier, on a la CRES, donc la chambre régionale de l'ESS, pour savoir se retrouver et se repérer dans les financements. Le CIP, le centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises, pour savoir s'entourer en cas de difficulté. Et puis après, c'est la caisse d'épargne pour l'atelier sur la banque. Et puis le Mans Métropole, hein, on est au Mans, pour l'atelier sur les collectivités. Et j'allais oublier, la conférence sur le mécénat, c'est Sarthe Mécénat. Voilà, qui de mieux que Sarthe Mécénat pour parler du mécénat.
Mais qu'est-ce que c'est le mécénat au juste?
Alors le mécénat, c'est une forme de financement. Ça peut être financier. En fait, il y a 2 formes de mécénat. Il y a le mécénat financier.
D'accord.
Donc, par exemple, une entreprise va donner des fonds à une association, une structure de l'ESS. Et il y a aussi le mécénat de compétences, où là, c'est plutôt du temps, de l'expertise qui va être fournie. Voilà.
Alors du coup, tu parlais de place des financeurs comme un lieu de rencontre entre des porteurs de projets et des financeurs. Mais du coup, j'aimerais bien en savoir un peu plus. C'est qui en fait ces porteurs de projets, comme tu dis, et de quoi on parle quand on parle de projet en fait?
Alors, quand on parle de porteurs de projets, on parle de citoyens, peu importe qui c'est, ou de structures qui ont un projet, qui ont envie de développer quelque chose, qui ont identifié un besoin et qui ont envie d'y répondre sur le territoire.
Donc ça peut être des individus, des associations?
Ça peut être tout le monde.
D'accord.
Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, de n'importe quel âge, de n'importe quel... Ça peut être tout le monde, du moment que c'est sur le territoire de la Sarthe. Nous, on se borne au territoire sartois. Après, il y a d'autres structures qui s'en chargent dans les autres départements, mais on est vraiment le relais de l'économie sociale et solidaire et de l'accompagnement de ce genre de projet en Sarthe.
Et alors, les financeurs, c'est des investisseurs privés, publics?
Alors, pour ce qui est des financeurs qu'il y aura à cet événement, il y a de tout. Donc, il y a du privé, du public. Pour donner des exemples, ça peut être des banques, des fondations, des collectivités, des financements citoyens comme les Cigales, des financements participatifs. Il y a vraiment de tout. Ça peut être des subventions, des prêts, des dons, du mécénat. Ça, voilà. Notre objectif, c'était vraiment de décloisonner tous ces mondes et de créer de l'interconnaissance et du réseau entre toutes ces personnes pour créer de la valeur et un impact positif sur le territoire.
En tant que porteur de projet, qu'est-ce que tu conseillerais en fait avant d'aller à Place des Financeurs? Est-ce qu'il y a des prérequis à avoir déjà... En fait, à quel point ton projet il doit être déjà dessiné, quoi?
Alors, il n'y a pas d'étape, il suffit juste d'avoir l'idée pour venir.
Juste l'idée, ça suffit?
Juste l'idée, être porteur d'un projet en fait, être porteur d'une solution qui répond à un besoin social, ou bien être simplement une structure déjà créée, je veux dire, de l'économie sociale et solidaire. Le but de ce temps, c'est vraiment d'être ouvert à toutes les personnes qui ont envie d'agir pour le territoire. C'est d'ailleurs notre slogan, vous voulez changer le monde, commencez par la Sarthe. C'est ambitieux, mais il y a un début à tout. Et donc c'est vraiment toutes les personnes qui portent un projet. Donc. Donc si vous portez un projet, les personnes qui nous écoutez, et que vous souhaitez trouver des financements, n'hésitez pas à venir, même si vous souhaitez juste vous informer sur tous les types de financements.
D'accord.
Voilà, c'est possible, c'est sur inscription, il y a tout le... Il y a tout ce qu'il faut.
Il n'y a pas besoin d'avoir déjà un budget établi, d'avoir déjà fait un cahier des charges, tout ça.
Pas du tout. Il suffit juste d'avoir une idée.
Ok. Bon bah très bien, super. Est-ce que tu peux nous rappeler les infos pratiques, date, lieu, modalité d'inscription, etc.
Bien sûr. Du coup, la place des financeurs, ça se passe le mercredi 27 mars de 14h à 19h à l'espace culturel l'éolienne de Arnage. Donc c'est 67 rue des Collèges. Et donc ça se passe sur inscription, donc vous pouvez nous retrouver sur notre site internet qui est ceas72.fr. Et voilà, il y a un formulaire d'inscription à remplir. Et ensuite, c'est tout bon.
Eh ben, merci beaucoup, Maël Cormier, pour être venu nous parler du CS72 et de son événement Place des Financeurs.
Merci à toi pour ce temps.
On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Birds in Row, Maroura et Unschooling le 16 mars aux Saunières en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Skip the Use, People in the Shadow. de retour dans l'amphi pour parler d'un des spectacles de Ève, la scène universitaire. Ça s'appelle « Des femmes respectables ». C'est un spectacle qui mélange danse et théâtre. Et on en parle tout de suite avec son chorégraphe Alexandre Blondel.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde.
Je suis avec Alexandre Blondel, directeur artistique de la compagnie Carna et chorégraphe du spectacle « Des femmes respectables » qui sera représenté à Ève le 21 mars. En lien avec cette représentation, Alexandre Blondel donne également un stage de danse intitulé « Danse et sociologie » le 23 mars au studio de danse du SUAPS. Bonjour Alexandre Blondel.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours en tant que chorégraphe ?
Oui, bah, on pourrait même commencer par mon parcours de danseur en premier, parce que j'ai une formation de danseur acrobate, voilà, en termes de spécialité. Donc j'ai dansé pour pas mal de compagnies durant une vingtaine d'années. Et parallèlement, j'ai commencé à créer ma propre compagnie, donc la compagnie Carna, il y a voilà, quelques années. Et ça fait vraiment une dizaine d'années où je suis vraiment, je dirais... concentré, focusé sur le développement et l'accompagnement du travail de la compagnie, quoi.
Ok. Voilà. Et vous pouvez nous en parler un peu plus de cette compagnie, Carna ?
Oui, bien sûr. Alors, je dirais que l'idée principale est un travail entre danse et justement, en tout cas, danse et théâtre. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est à la frontière des deux. Voilà, des deux disciplines. Et je dirais que principalement, les interprètes à l'intérieur sont danseurs ou danseuses, mais peuvent être issus de plusieurs formations. Ça peut venir du monde acrobatique, hip-hop, contemporain, voilà.
D'accord, donc ça mélange plusieurs disciplines, quoi. Théâtre, ouais, danse, acrobatie, ouais, etc.
Exactement, ce sont des pièces pluridisciplinaires avec un élément fondamental et je trouve qui rassemble, c'est l'idée que chaque pièce interroge ou en tout cas pose la question, en tout cas la notion sociale et la place au centre. Voilà. Donc c'est-à-dire on aura pu aller travailler autour du rapport au travail. Voilà, j'avais créé un solo il y a quelques années qui s'appelait 39-49, veuillez patienter. Ensuite j'ai fait par exemple là dernièrement justement les deux dernières créations, c'est autour des rapports de genre et de classe sociale. Donc le premier volet qui s'appelle De la puissance virile, c'est un trio de garçons, voilà, qui tourne encore. Et puis voilà le spectacle dont on va parler qui s'appelle Des femmes respectables.
Bon. Alors avant d'entrer un peu plus dans le détail de ce spectacle, je voudrais revenir juste sur un mot dans la présentation de votre compagnie. On peut lire que vous tissez des liens entre l'intime et le collectif, animer la matière corporelle et textuelle et expérimenter de nouvelles formes de dramaturgie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça en fait ?
En fait, c'est très simple. C'est-à-dire que l'idée, c'est, par exemple, pour être très concret, moi, je vais puiser dans une forme de collectage, ou en tout cas, souvent, c'est comme si par exemple, je vous interrogeais sur votre trajectoire, sur des sujets particuliers, on va dire, votre rapport à la famille, par exemple.
D'accord.
Et puis, à partir de là, moi, j'essaye d'en extraire des choses qui m'intéressent. Donc je peux aller retirer des paroles que vous aurez dites et la mélanger avec d'autres paroles de d'autres personnes qui résonneraient un peu ensemble, et comme ça je peux construire des textes, des formes au plateau. Et parallèlement, donc là c'est justement parce que c'est le sujet sur lequel je travaille actuellement autour de la famille, et bien par exemple on travaille sur c'est quoi faire famille, par exemple, en ce moment. Donc, on se pose la question, dans le corps, c'est quoi aujourd'hui de la filiation, mais dans la danse. Donc, ça, on va chercher, parce que là, c'est spécifique. Donc, par exemple, on travaille sur la question de l'abandon. Donc, on travaille sur le corps qui se désarticule, qui tombe, qui chute, comme si on était un peu... vous savez, comme si on avait des morceaux de soi qui tombait, qui se fragmentait. Voilà, mais donc on est sur un truc très plutôt, je dirais, un travail d'isolation, voilà, un peu hip-hop, etc. Voilà. Enfin, je donne un exemple très concret dans le mouvement. Quoi.
Donc les sujets des pièces de vos compagnies, en fait, elles sont très ancrées dans le réel, ou en tout cas dans le vécu.
Ouais.
Est-ce que le but, c'est d'avoir un discours politique, ou c'est pas tellement ça l'idée ? Comment est-ce que vous le concevez ?
De fait, tout est politique. Voilà, on peut D'accord. pas, on ne peut pas le nier. Après, on ne cherche pas forcément, en premier cas, moi, je ne cherche pas forcément à comment dirais-je, à dire oui, ceci est politique. En fait, peu importe, ça s'impose à nous, en fait. C'est-à-dire que le sujet, oui, est ancré dans le réel. On parle de soi, on parle des autres, voilà, et forcément, ça résonne, quoi. En tout cas, ça doit. Souvent, on peut vite, très vite s'identifier. Quoi. Voilà, on est tous impactés d'une façon ou d'une autre. Voilà.
Alors, la pièce dont on va parler aujourd'hui, Des femmes respectables, est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer d'où vient ce titre ?
Ouais, alors ben, c'est très simple. C'est en fait un titre hommage, puisque c'est tiré d'un ouvrage de recherche d'une femme qui s'appelle, d'une chercheuse qui s'appelle Beverly Skeggs, voilà, qui est une chercheuse anglo-saxonne. Qui a écrit, en fait, tout simplement, qui a fait, en tout cas, qui a réalisé une enquête de 10 ans en Angleterre sur de jeunes femmes qui travaillent, qui sont dans le care. Le care, c'est la prise en charge de la personne.
D'accord.
Voilà. Et voilà, en fait, donc moi, c'était. Là, en fait, j'ai lu cet ouvrage qui a été le point de départ de ma propre recherche. Mmh. Et voilà, j'ai décidé de, je dirais, de prendre ce nom. En hommage en fait à cet ouvrage tout simplement, voilà, je trouve que ça faisait vraiment sens.
Parce que c'était quoi l'objectif de ce livre en fait, quel était son propos?
Eh bien, dans ce livre en fait, elle est allée interroger des jeunes femmes voilà, qui sont en tout cas ouvrières dans la prise en charge, dans le soin, etc., etc., et en fait essayer de comprendre donc de jeunes femmes issues de milieux populaires qui se racontent sur les questions de, bah, par exemple, d'émancipation. Voilà.
Et alors du coup, le but de votre spectacle, c'est là aussi de mettre en avant des voix invisibilisées en quelque sorte ?
Exactement, c'est exactement ça. Mais souvent, c'est ce que je fais en fait. C'est vraiment, en fait, je vais chercher des espaces, je dirais, dont on entend peu parler dans les médias. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de commun et qui m'intéresse souvent, c'est de... Je dirais de faire émerger une parole qu'on n'entend pas souvent, ou qui semblerait désuète, qui n'aurait aucun intérêt, voilà, aux yeux des médias, ou plus globalement, on veut dire, dans l'espace public, quoi. Voilà.
Et alors, comment est-ce que vous la mettez en avant, cette parole? Est-ce qu'on va entendre des textes?
Très concrètement, dans la pièce, l'idée, c'était qu'il y a 4 interprètes au plateau, voilà, 4 jeunes femmes. Donc ils prennent en charge quand même, puisque je suis allé interroger moi, de mon côté, des femmes âgées, donc des femmes qui avaient entre 70 et 85 ans.
D'accord.
Voilà, sur justement ce que je vous dis sur ces questions d'émancipation dans le quotidien. Donc ça pouvait être un divorce, le refus d'avoir plusieurs enfants, le rapport à l'école, etc., etc. Donc vraiment des choses très ancrées. Et comment finalement ces jeunes femmes, en tout cas comment ces paroles qui sembleraient, comme je le disais à l'instant, désuètes, résonnent ou agissent ou créent finalement un écho dans la bouche de jeunes femmes d'aujourd'hui.
Ok. Voilà.
Ouais, et par extension, puisque le jeu c'est aussi ça, c'est qu'on a voulu flouter un peu et donc on entend aussi. La parole aussi de ces jeunes femmes aujourd'hui qui elles aussi se positionnent, donc il y a parfois on ne sait plus qui vraiment parle et c'est aussi tout l'intérêt de casser ou de, je dirais, de flûter la dimension historique.
D'accord. Mais alors en tout cas vous puisez pas votre matière dans les témoignages du livre de Beverly Skeggs, c'est des...
J'en ai pris mais très très peu.
D'accord. Voilà. Ok. Ouais, c'est surtout des rencontres qui sont propres à ce que vous avez fait en fait, quoi.
Mais en fait, c'est simplement que ce livre, il a été pour moi déterminant.
Au niveau de la démarche, en fait.
Exactement, parce que j'étais profondément d'accord et parce que elle a développé en fait une spécificité sur les questions de genre. Souvent, dans les études de genre, on nommait la question de l'origine sociale.
D'accord.
Et je trouve que, et de mon point de vue, et je le partage, en tout cas à travers son travail à elle aussi, c'est-à-dire que je partage ce point de vue-là que finalement, l'origine sociale est quand même déterminante dans le rapport de genre. Voilà. Et dans la construction de soi. Voilà. Et donc ça, c'était aussi, je dirais, l'idée du point de départ de la pièce, d'aller interroger vraiment des femmes de milieu populaire spécifiquement.
Mais alors du coup, là, on a parlé de texte, mais quelle place prend la danse alors ?
Eh ben, en fait, la danse, pour moi, elle est, en fait, c'est la première des portes, c'est-à-dire que le corps parle. Et parfois il est pas nécessaire en fait de dire les choses, voilà.
D'accord.
Et moi je suis avant tout mon premier chemin, c'est je suis danseur quoi. C'est vraiment je suis un mover. Je viens vraiment de cette école là. Et donc j'ai toujours trouvé que parfois la parole elle ne suffisait pas en fait et que le corps était plus que nécessaire à dire les choses et alors aussi de mettre parfois de la distance. De sublimer, de donner à voir ou de faire ce qu'on dit être traversé en fait. C'est-à-dire que quand on voit des gens bouger, moi j'ai toujours cette sensation-là, même peu importe ce qui se passe, mais l'idée c'est quand même d'être traversé par des sensations, ouais. par des qualités, par des émotions en fait qui parfois on ne sait même pas d'où elles viennent, mais l'idée c'est d'être à l'écoute de ça. Et moi, l'idée, c'est d'aller chercher avec la danse, avec le mouvement, en fait, d'aller chercher et de provoquer un état particulier chez le spectateur ou la spectatrice. Mmh. C'est vraiment cette idée-là. Voilà. Et à travers ça, évidemment, la danse, elle n'est pas juste là pour... c'est pas, en tout cas, pas juste quelque chose dans la forme. Pas du tout. Justement, on essaye tout le temps, à travers cette recherche, de trouver des qualités de mouvement qui viennent correspondre à ce dont on a dû parler. Donc dans la pièce, par exemple, toute la première partie, c'est une longue répétition de mouvements, un peu qui reviennent, comme si en fait, on le voit très clair, il y a des motifs qui reviennent, il y a l'idée d'un quotidien qui recommence sans cesse avec l'idée de cette scène, on l'appelle les mères courage.
Okay.
C'est l'idée de la charge physique, mentale, du quotidien. Donc on voit ces femmes qui s'affairent sans cesse. Voilà, et les choses se reproduisent, et l'idée c'est aussi de s'épuiser nous-mêmes à regarder cette scène-là. Voilà.
Parce que justement, ma prochaine question, elle est portée justement sur les sujets évoqués à travers ces paroles, qu'elles soient dites ou dansées. Donc, vous avez parlé du quotidien, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont évoqués ?
Oui, ce que je vous disais, en fait, c'est, je dirais, dramaturgiquement, la pièce, elle est un peu comme si vous voyez se dérouler la vie d'une femme.
D'accord.
Donc on parle, je vous dis, de l'enfance, on parle d'un mariage, on parle d'un divorce, on parle du boulot, voilà, parce qu'on parle du syndicalisme aussi, puisque c'est des formes d'émancipation, le syndicalisme est aussi une porte d'émancipation. Voilà, donc c'est comme ça des moments un peu charnières dans la vie qui viennent, on va dire comme un chemin, voilà, un peu agrémenté finalement et être, je dirais, parsemé. De choses qui sembleraient, je pense, assez claires, en tout cas aux yeux des spectateurs. Je pense que justement, l'intérêt de notre travail, et ça, j'essaye en tout cas de faire ça, c'est de trouver des ponts d'accessibilité entre la danse et le théâtre. Voilà.
D'accord.
Et souvent, on entend des paroles et les interprètes dansent en même temps. L'idée, c'est que ce soit un peu, ça interagit en permanence, quoi. Donc le corps et la parole agissent en même temps parfois. Voilà.
Alors vous l'avez précisé au début de cet entretien, en fait, des femmes respectables fonctionnent en diptyque avec une autre pièce.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, j'ai créé en parallèle, en tout cas en amont, une autre pièce qui s'appelle De la puissance virile, qui est un peu, pour moi, la réponse, en tout cas. Du côté masculin, en fait, je suis et qui est les deux peuvent exister indépendamment, mais ça nous est déjà arrivé de jouer les deux dans la même soirée, et ça c'est toujours très intéressant. Donc voilà, donc cette pièce, elle vient plutôt là. J'ai pas fait une enquête auprès de personnes extérieures, mais je suis allé interroger en fait directement les danseurs, les trois danseurs avec qui je travaille, qui sont tous les trois issus du milieu populaire. Donc, ce qui est plutôt rare dans le milieu, c'est-à-dire que souvent, on peut dire que le milieu de la danse est plutôt un milieu social protégé. En tout cas, la majorité des gens viennent plutôt de classe sociale, soit classe moyenne, classe sup, etc. Voilà, donc l'idée, c'était d'essayer d'interroger à travers leur propre trajectoire. L'idée aussi d'être transfuge de classe, quelque part, et l'idée d'être... comment ils sont eux-mêmes ajustés au milieu de la danse.
D'accord.
Comment ça les a finalement transformés, on va dire, pour dire simplement les choses.
Voilà. Et donc il y a un dialogue entre les deux pièces ?
Non, pas directement, non. Il y a des motifs un peu chorégraphiques. On s'est amusé à essayer de piquer un tout petit peu d'écriture entre les deux. Il y a deux, trois motifs qui reviennent, mais sinon, non. C'est vraiment... pour moi, elles interrogent la même chose, mais par deux prismes différents.
Ok. Vois. Alors en tout cas, en lien avec ce spectacle, vous donnez un stage de danse le 23 mars qui s'intitule Danse et sociologie. Quel va être l'objectif de ce stage ?
Bien, c'est finalement de donner aux stagiaires, en tout cas aux personnes présentes, je dirais une petite facette de notre cuisine personnelle, quoi, je dirais.
Okay.
Voilà, comment nous, notre recette. Voilà comment moi je fonctionne, quels sont les procédés qu'on utilise, voilà, bien entendu, et puis transmettre aussi un peu de matériel chorégraphique, donc de danse, quoi, voilà, tout simplement. L'idée c'est ça, c'est d'être en fait dans ce genre de stage, c'est l'idée d'essayer de comprendre un peu la démarche, voilà. Et comment, finalement, quelle est la stratégie, comment on fonctionne, voilà.
Et j'ai cru comprendre que vous alliez interroger la question du genre en rapport avec la classe sociale. Vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, que vous liez beaucoup genre et classe sociale. Mais pourquoi vous faites cette liaison, en fait ?
Si vous voulez, très simplement parce que j'ai lu d'autres études et je trouvais que, globalement, si je donne un exemple, je vais balancer... non, mais parce qu'on en parle dans la pièce. Il y a des essais une essayiste très connue qui est très lue, qui s'appelle Mona Chollet, très médiatique, qui parle en fait de cette question-là, du rapport de genre, par exemple dans son ouvrage Sorcière. Et je me souviens qu'à l'époque, quand je l'avais lu, il m'avait laissé un petit goût amer, justement, parce que je trouvais que il manquait un élément fondamental, celui dont je vous ai parlé, celui d'origine sociale, que c'était parfois je trouvais ça pas facile, mais presque facile, sais pas comment, mais voilà, de prendre sa position et de regarder en fait c'est une forme d'ethnocentrisme, on appelle. Voilà.
D'accord.
Mais voilà, ça pouvait en tout cas ça m'avait beaucoup questionné. Voilà. Et donc à partir de là, j'ai commencé à reprendre, je dirais, d'autres, justement, études où là, il y a plus la question de l'origine sociale qui, en tout cas, du rapport de classe qui pourrait, il pourrait exister, en fait, voilà, tout simplement.
Et alors, pour en revenir à votre stage, est-ce qu'il faut avoir déjà fait de la danse, être un peu expérimenté pour pouvoir y participer ?
Écoutez, je crois qu'il vaut mieux avoir une approche, parce que sinon vous allez être frustré un peu. Parce que je suis quand même quelqu'un de assez physique. Voilà, j'aime bien en tout cas pouvoir partager en plus une physicalité forte, que j'ai ce parcours là. Mais non, après, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau incroyable. Non, pas du tout.
Est-ce que vous pouvez simplement nous rappeler les infos pratiques concernant votre actualité ? Où est-ce qu'on peut la consulter ?
Alors. Les infos pratiques, le plus simple, c'est là où c'est les réseaux sociaux. Donc les réseaux, franchement, c'est le plus facile. Donc il y a vous cherchez cice.carna, CRNA, sur Instagram notamment, Facebook. On est encore plus finalement aujourd'hui sur Instagram. C'est là où on est le plus présent, je pense. Ouais. Et puis parallèlement, carna.fr, très simplement. Voilà. Donc ça c'est notre site internet. Où là, il y a toutes les infos. Je pense que déjà, c'est déjà très bon.
Eh bien, merci beaucoup, Alexandre Blondel, pour nous avoir parlé de la compagnie Carna, du spectacle Des Femmes Respectables et du stage qui l'accompagne. Merci beaucoup.
Ouais, merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée.
Je rappelle que Des Femmes Respectables, c'est à Ève le 21 mars et le stage le 23 mars au studio de danse du Schwaps. On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Ella Atone, Damarea et En attendant Anna. Soirée Indérama le 15 mars à Jean Carmet en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite on écoute Chaka Ponk, I'm a Lady. When I was a kid at the age of 5, I found a hole so far in my mind that I could see what nobody sees. I was a lady, beware ladies. I was a shop for my redneck hair. l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et comme tous les jeudis, on est avec Clémentine.
Salut Charlie.
Salut Clem.
Alors aujourd'hui, on va partir faire un tour en Slovénie. Le 9 octobre, vers 17h, nous sommes arrivés à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Nous avions prévu d'y rester la nuit et de profiter de jour de cette capitale qui est l'une des plus petites d'Europe. Elle compte environ 280 000 habitants. Et pour vous donner un ordre d'idée, Paris, à elle seule, compte 2 161 000 habitants. C'est donc 10 fois plus d'habitants qu'à Ljubljana. Nous avons trouvé un petit parking sur lequel nous pouvions stationner et passer la nuit pour 10 euros. Une fois nos marques prises sur le campement et après une petite sieste revigorante, nous avons décidé de marcher en direction du centre-ville. Il était environ 19h30. La nuit était tombée, mais la ville éclairée en ses beaux monuments nous charmait déjà. C'était prévu que l'on rejoigne une copine à moi qui voyageait, elle aussi, avec une amie dans les pays Balkans. Quelle surprise lorsque j'ai su que l'on allait se croiser. Nos derniers échanges remontaient à 3 voire 4 ans. J'étais donc assez impatiente de venir à sa rencontre, de la présenter à mon copain et d'échanger avec son ami. La soirée est passée si vite. Nous avions quelques années à rattraper pour reprendre le fil respectif de nos vies, en plus d'échanger avec son ami qui était tout aussi superbe. Le temps ne nous ayant pas attendu, nous avons décidé de remettre tout ça à demain. Le réveil sonnait au petit matin. Un petit déjeuner, une petite toilette et nous prenions le pas en direction du marché. C'était là où l'on devait se rejoindre. Il faisait jour, il faisait beau et c'était alors le moment venu pour découvrir la beauté de Ljubljana en journée. Le marché, que vous pouvez retrouver du lundi au samedi, se trouvait sur la place principale et regorgeait de fruits et légumes de saison. Il faut dire que le fruit de la Slovénie est la prune et qu'il n'y a pas match. Leurs prunes sont bel et bien les meilleures. Après cette petite balade, nous retrouvions les filles et sommes partis prendre un café sous le soleil. Nous discutions encore pendant très longtemps. Le temps passait et avec Goulouen, nous avions pour projet de visiter la ville avant de repartir le soir. Et étant donné que les filles avaient, elles, pour projet de faire les friperies, nous nous donnions rendez-vous au château situé au sommet de la colline du centre-ville pour y contempler ensemble le coucher de soleil et donc passer ce dernier moment à quatre. Alors que nous étions dans cet endroit seulement depuis une demi-journée, nous étions comblés d'un sentiment de bien-être. Ljubljana est connue pour ses espaces verts, sa rivière sinueuse, ses cafés, sa vieille ville, mais aussi pour ses nombreux musées. Nous avons alors décidé d'y rester une journée de plus, car nous étions complètement sous le charme de cette ville et que nous ne voulions plus vraiment la quitter. En octobre, la nuit tombe vers 18h en Slovénie. Alors vers 17h, nous nous dirigeons en direction du château datant du XIIe siècle pour y contempler le coucher de soleil comme prévu. Il fallait marcher une trentaine de minutes, ou plutôt grimper pendant une trentaine de minutes. Le chemin était très agréable, il était recouvert de verdure. C'est comme si l'on se coupait de la ville. C'était vraiment très joli. Une fois tout en haut, nous avions une vue sur toute la capitale. Le coucher de soleil était splendide, j'en garde un très bon souvenir. Quelques photos souvenirs prises avec les filles, et la nuit enfin venue, nous sommes redescendus. Les filles repartaient vers 21h. On décida alors de partager ces derniers moments à quatre, tous ensemble, autour d'un verre. Ces retrouvailles qui étaient improbables ont renforcé nos liens. Après des au revoir, l'on rentrait au camion avec Goulouen pour y passer la nuit. Sur le chemin, nous avons décidé d'à nouveau prolonger notre séjour à Ljubljana, car nous n'avions pas eu le temps de voir et faire tout ce que l'on souhaitait. Mais c'est surtout parce que l'on s'y sentait merveilleusement bien que nous ne voulions pas repartir pour le moment. C'était un vrai coup de cœur que nous avons eu. Mais le plus gros coup de cœur que nous avons eu concerne leur spécialité. Il faut absolument que vous alliez au petit café situé juste à côté du marché. Il sert les meilleurs Oreova Potika. À la base, c'est un gâteau traditionnel aux noix, mais ce petit café fait plein de recettes revisitées qui sont tellement délicieuses. Il y en a pour tous les goûts, sucrés comme salés. Vous pourrez en goûter à la pistache, au chocolat, aux épinards, mais aussi aux chèvres. Tout pour vous régaler. En plus, sur le marché, vous y trouverez différents stands qui cuisinent directement des plats typiques. Le marché est donc un incontournable. Et puis, les prix valent complètement le coup. Le café, c'est 1 euro, la bière, c'est 2 euros ou encore 1,50 euro le jus de fruits. Vous pourrez donc remplir votre assiette avec des produits frais, locaux et tout ça à petit prix. Alors préparez vos affaires et filez visiter ce splendide pays. Je tiens quand même à vous informer d'une chose avant de commencer votre visite. Dans la culture slovène, dire bonjour et sourire à quelqu'un que l'on ne connaît pas est perçu comme malpoli. Alors au début, lors de nos premiers jours en Slovénie, on ne comprenait pas pourquoi les habitants nous paraissaient si froids. C'est lorsque l'on a rencontré un Français qui voyageait souvent en Slovénie en caravane qui nous a expliqué que ce n'était simplement pas dans leur culture de dire bonjour ou de sourire. Alors que pourtant, Dès que vous entamez une discussion avec un des locaux, ils sont très souriants, accueillants. Mais ils ont donc une sorte de grosse carapace sur eux, des vraies tortues. Je vous souhaite donc une merveilleuse visite à Ljubljana et on se retrouve la semaine prochaine pour discuter ensemble des autres endroits incontournables à voir en Slovénie. Bonne soirée.
Merci Clem, c'est drôle ça qu'ils disent pas bonjour, mais comment oui. Tu entames une conversation du coup si
c'est très difficile, soit on a discuté parce qu'on était avec un Français,
ouais.
Soit tu discutes pas trop à vrai dire.
D'accord, c'est particulier. Bon en tout cas on va se quitter en musique avec Two Weeks, Grizzly Bear, choisi par Clémentine. Merci d'avoir écouté l'Amphi. La prochaine, ce sera ce vendredi 15 mars et on fera une rétrospective des 24 heures de l'éloquence avec le premier prix Julian Hatzenhofer. À bientôt dans l'Amphi.
c'était l'Amphi. L'émission étudiante.
Étudiante.
Radio Alpa, l'alternative.